Bien, bonjour à tous. Merci à nouveau de votre présence. Bon, certains n'étaient peut-être pas là hier, je ferai juste quelques rappels rapides. Donc je vais faire une introduction pour la double session de ce matin, donc sur la protection des patrimoines par le PLU, et présenter un petit peu les intervenants. Enfin, les introduire. Alors, depuis, en fait, la loi de 1913, il est question d'un deuxième niveau avec l'instruction, l'inscription, et puis d'un troisième niveau de protection des monuments. Donc, c'est une question déjà ancienne. Et comme Arnaud de la Jartre l'avait rappelé hier, la loi Liberté de création, architecture et patrimoine du 7 juillet 2016 a recréé un régime juridique quasiment similaire au précédent, en un peu plus recentralisé juridiquement et plus décentralisé en pratique, au dire des acteurs de terrain. C'est-à-dire que, bon, c'est un petit peu une loi pour rien, beaucoup de bruit pour rien. On avait fait il y a 3 ans un colloque sur le précédent projet qu'on avait fortement critiqué, qui donnait beaucoup de pouvoir aux élus locaux, mais qui avait le mérite, disons, de proposer un nouveau système. Alors, pour autant, mais c'est une question qui peut être débattue par les intervenants, de mon point de vue, le patrimoine n'a pas obtenu un troisième niveau de protection locale, comme il peut exister dans les pays anglo-saxons, avec un mode de désignation de monuments, ou de différents éléments, avec notamment un marquage par des plaques qui les identifient aux yeux du public, ce qui n'est pas le cas avec le PLU patrimonial. Inversement, la diversité des patrimoines y a peut-être gagné, mais ça, c'est peut-être pas trop le fait de la loi, mais plutôt le fait de l'évolution des mentalités et des prises en compte. Avec plus d'intérêt pour le patrimoine naturel, les parcs et jardins, le patrimoine industriel, les labels, que ce soit de l'UNESCO, des labels nationaux ou associatifs également. Mais cela reste à confirmer sur le long terme. Alors, l'inscription d'éléments isolés, de séquences ou d'ensembles sur des zones délimitées permet de renforcer le contrôle de la collectivité sur la physionomie et la cohérence patrimoniale de la ville ou de l'intercommunalité. Donc nous, on a traité surtout des villes, mais également un petit peu des intercommunalités, qui reste une question en devenir et qui changera peut-être les références patrimoniales, et également sur certains travaux et leur destination, avec éventuellement l'avis de l'ABF, donc bien sûr en cas de protection d'État, mais parfois aussi pour des permis de démolir. Mais cela dépend des mesures adoptées dans le PLU. Comme il a été dit également hier, le PLU patrimonial, en fait, n'existe peut-être que dans nos têtes, puisqu'il n'a pas de formulation juridique stricte, le patrimoine étant un des éléments parmi d'autres du PLU. Certains ayant un statut plus important quand ils sont intégrés dans un PLU, avec notamment l'habitat, le logement, les transports ou l'environnement. Alors, dans un PLU, il peut y avoir des mesures prescriptives, mais aussi des recommandations. La question de l'emplacement de ces mesures est importante, puisqu'elles peuvent être directement dans le règlement, dans l'annexe au règlement, ou dans les annexes, et dans ce cas-là, ne pas avoir de valeur impérative. Et il peut y avoir des malentendus, voire des conflits générés par le positionnement de ces mesures ou la formulation de ces mesures, c'est-à-dire qu'on a parlé aussi, et on parlera du droit dur ou du droit souple, et selon la manière dont c'est formulé, des prescriptions peuvent en fait être en réalité des recommandations et inversement. Donc ça peut être sujet de conflits, voire de contentieux. Comme nous l'avons vu hier avec la sélection des patrimoines, cela peut aller d'une simple identification à une série de prescriptions précises et étendues. Donc il y a toute une gamme. C'est pour ça qu'on a parlé de portrait de classe et non de typologie bien précise. Mais peut-être qu'avec l'intercommunalité, on aura un resserrement des possibilités à l'échelle territoriale. Le degré de protection dépend des patrimoines existants, protégés ou non par l'État. Certaines communes n'ont pas de patrimoine protégé, d'autres en ont beaucoup, donc du coup, les mesures patrimoniales viennent en complément, alors que ça peut être des mesures fortes pour une ville qui n'a pas de patrimoine protégé. Mais ça dépend surtout de la volonté politique ou des volontés, si on est dans le cadre de l'intercommunalité, et de la qualité de l'ingénierie locale ou territoriale qui peut être directe ou déléguée. La principale faiblesse du PLU réside dans sa réversibilité, y compris pour le patrimoine, contrairement au principe de non-régression pour les mesures environnementales. J'ai y compris pour le patrimoine parce que le PLU en général donc peut être revu, révisé. Alors il y a différentes manières et il y a des mécanismes de vigilance qui permettent, en cas d'élaboration ou de révision du PLU, d'avoir une procédure encadrée qui limite quand même les atteintes éventuelles au patrimoine grâce aux concertations qui sont organisées par la ville, donc de manière plus ou moins étendue. Il y a des concertations aussi obligatoires avec certaines personnes publiques ou aussi privées. Et puis, une enquête publique. On sait que c'est surtout les parties intéressées qui réagissent pour les enquêtes publiques, mais il y a aussi les débats publics. Et puis, il peut y avoir des recours une fois le PLU adopté. Alors, Arnaud de la Jarre a rappelé hier qu'il y avait eu un recours important pour un contentieux important pour Angers, avec une annulation du PLU pour des raisons patrimoniales bâties, mais aussi d'atteinte à un espace boisé classé. Et puis il y a d'autres exemples de la sorte. Il y a aussi des recours possibles contre les permis de construire qui peuvent remettre en cause partiellement un PLU. Je termine avec un exemple de Reims, assez rapidement. Voilà. Alors j'ai marqué un cercle vertueux vicié. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Le cadran est intéressant donc, parce qu'il est vraiment actuel. Il s'est placé dans le cadre de cette loi, puisqu'il n'y avait pas de ZPPAUP ou d'AVAP, ni de secteur sauvegardé. Il y avait des mesures patrimoniales dans le précédent PLU. Et lors de la révision, donc, il a été souhaité de créer une AVAP, donc site patrimonial remarquable, et puis également de renforcer les mesures patrimoniales dans le PLU, avec des immeubles, des séquences d'immeubles et des cités-jardins qui ont été identifiées avec des mesures prescriptives. Il y a donc également l'AVAP SPR qui inclut la zone inscrite à l'UNESCO, avec aussi une cité-jardin, et un patrimoine inscrit à l'UNESCO en 1991. Et puis il y a le projet de site patrimonial remarquable en centre-ville, donc qui inclut beaucoup de monuments protégés, gallo-romains, médiévaux, ou art déco, un petit peu renaissance mais pas beaucoup. sachant que la ville a été en grande partie reconstruite après la guerre 14-18. La trame verte et bleue et le patrimoine industriel ne sont pas oubliés, notamment dans les OAP, mais en fait, il y a des éléments patrimoniaux et de trame verte et bleue un peu dans tous les documents du PLU. Alors, il y a une OAP thématique pour la trame verte et bleue et une OAP de secteur qui concerne en partie le patrimoine industriel avec des projets de rénovation, de redéveloppement. Donc, le PLU a été révisé le 28 septembre 2017 avec toutes les pièces nécessaires qui ont été très développées, donc rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientation d'aménagement et de programmation, le règlement écrit avec une annexe au règlement, des documents graphiques, des annexes avec les servitudes d'utilité publique et puis l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Voilà tous les détails avec des documents très, très copieux. On peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure l'amplitude de ces documents est compatible avec la citoyenneté. Les spécialistes ont déjà du mal à se repérer dans l'évolution des législations et l'avancée, la révision des documents. On peut vraiment s'interroger sur la possibilité pour le citoyen de se repérer dans tout ce maquis, bon, sauf éventuellement pour des parties intéressées. Voilà, les planches de zonage, les plans de hauteur, les plans des servitudes d'utilité publique, d'autres plans, etc. Donc c'est très, très complet. Voici les zonages. L'aire de mise en valeur du patrimoine avec aussi les documents qui vont avec. Mais tout cela n'empêche pas des aberrations, comme parfois la destruction de maisons à caractère régional ou art déco, avant et après la révision du PLU. Ni la monstruosité qui suit, ce que je vais vous montrer. Malgré toutes les protections possibles, UNESCO, monument classé, abord, faisceau de vue, etc. Alors, un petit exemple de maison avec des motifs art déco détruite en 2018, donc par un promoteur privé. Donc, juridiquement, rien n'a trop pu être fait. Par contre, il y a eu une pétition qui a été largement signée. Mais vous voyez que finalement, ces maisons, qui sont quand même d'un ou deux étages, finalement font un peu tache par rapport aux immeubles qui l'entourent. Et donc un projet immobilier l'emporte sur l'intérêt patrimonial de ces maisons. Donc ça, c'est dans le centre-ville. Et là, dans le plein centre, voilà le dernier projet qui a été accepté par la ville et l'architecte des bâtiments de France. Donc il y avait un espace vide qui donnait effectivement une belle vue sur la cathédrale. On peut tout à fait comprendre qu'il y a un bâtiment qui soit construit à cet emplacement. Par contre, vous voyez clairement qu'il fait 3 étages et en plus il y a une extension au-dessus que vous ne voyez pas. Voilà. Donc tout ça pour conclure que le PLU, même s'il est fortement patrimonial, même s'il y a des zones de protection et qu'il y a un projet de site patrimonial remarquable en plein centre, n'empêche pas de telles atteintes au patrimoine. Donc la question, c'est de savoir si, dans quelle mesure le PLU patrimonial protège réellement le patrimoine, ou bien est-ce qu'il est insuffisant par rapport à des mesures de protection plus fortes qui relèvent de l'État. Voilà, je vous laisse donc avec les intervenants. Donc sur une première partie concernant l'écriture réglementaire du PLU patrimonial, avec Isa Carré, qui est doctorante en droit public à l'Université Lyon 2, et puis Arnaud Delajartre, maître de conférence en droit public à l'Université d'Angers. Et la discussion sera animée par Jackie Cruchon, de l'Association des sites et cités remarquables de France. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Fabrice pour l'introduction d'aujourd'hui. Alors comme je tiens le micro, dans un premier temps, je tenais quand même à remercier toute l'équipe du projet de recherche et en premier temps mon directeur de thèse qui m'a permis d'intégrer cette équipe au tout début de mon doctorat. Et vraiment, je tiens à prendre ce temps pour vous remercier tous et toutes, membres de cette équipe, parce que ça a été des grandes joies de vous rencontrer. Et surtout, merci de m'avoir permis de sortir du silence de la thèse et de pouvoir écouter à quel point les langages des différentes disciplines sont si éloignés et à quel point il peut être vraiment très difficile de communiquer entre nous, comme vous pouvez le constater depuis hier, de toute manière. Alors, sur l'écriture réglementaire du PLU patrimonial, voilà une lourde tâche qui nous a été confiée. Alors, on ne promet pas d'être exhaustif avec Arnaud, parce que ce serait extrêmement difficile dans le temps qu'il nous a imparti. Donc, pour commencer, on peut dire que le PLU est devenu le réceptacle de toute une série de politiques publiques, comme l'illustre l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, qui rappelle que l'action des collectivités, dans le respect des objectifs de développement durable, vise à atteindre, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les objectifs suivants: la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel, la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville. Ainsi, la protection du patrimoine fait partie intégrante des objectifs fixés par le Code de l'urbanisme. Si le PLU doit, par cet article, aborder la question de la protection du patrimoine, le juge constitutionnel considère que seule une obligation de moyens est imposée aux autorités locales en raison de la libre indépendance des collectivités. Pourtant, il existe déjà de nombreux outils spécifiques à la protection du patrimoine culturel, je ne vous apprends rien, monuments historiques, SPR, abords, etc. On a donc des législations spécifiques d'un côté et des outils proposés par le PLU de l'autre. Mais toutes ces manières de protéger le patrimoine ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Mettant à mal ce que certains appellent le principe d'indépendance des législations en droit public, la protection des patrimoines par le PLU doit être bien pensée et ne pas exclure pour autant complètement les législations spécifiques à la protection du patrimoine, notamment en cas d'annulation du PLU. Il y a donc un souci de sécurité juridique. Il faut encore une fois composer avec la question de la temporalité des règles d'urbanisme qui ne sont pas toujours synchro avec les soubassements de la protection du patrimoine. Et tout le monde le sait, le contentieux en droit de l'urbanisme est extrêmement important. Intégrer du patrimoine directement dans le PLU fait sens si on considère que le PLU est vecteur d'identité locale. Excusez-moi, hop. Intégrer une protection du patrimoine par le PLU peut revêtir des fonctions stratégiques non négligeables. Cela permet de faire de la protection du patrimoine sans pour l'afficher pour autant. Il n'y a pas de fiscalité patrimoniale attachée au PLU et pas de contrôle des travaux par l'ABF, ce qui peut être plus ou moins un bon point en fonction de votre point de vue. Sauf évidemment si le PLU est superposé à d'autres périmètres de protection, abords, sites, etc. L'intégration des patrimoines dans le PLU implique de leur donner un statut juridique. Comment traduire alors par une norme qualitative dans le PLU la protection d'un bien ? L'articulation des normes de ce qu'on appelle de droit souple ou de droit dur au sein du PLU peut soulever des difficultés, notamment sur la compréhension de la portée normative de ces normes par les récepteurs du PLU. Dans un souci pédagogique, je vais prendre le temps de définir ce qu'est le droit souple et le droit dur. Donc, les règles obligatoires sont des règles de droit dur, c'est-à-dire qu'elles affectent l'ordonnancement juridique. Elles ont un contenu normateur. Le droit dur est finalement l'archétype de la règle de droit telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire une règle contraignante. À côté se développe ce qu'on appelle le droit souple, qui concerne des règles non prescriptives, en ce sens qu'elles ne sont pas contraignantes. Il s'agit souvent de recommandations, d'avis, de mise en garde ou de prise de position. Ces actes ne sont pas obligatoires car ils ne modifient pas l'ordonnancement juridique. Entre les actes de droit dur et les actes de droit souple, il existe, selon le Conseil d'État, un ensemble de règles qui s'insèrent dans une échelle de normativité graduée, en ce sens qu'elles imposent un simple rapport de compatibilité plutôt que de conformité. Donc, Sans embâge, notre propos sera découpé en deux parties entre Arnaud et moi, deux parties, deux sous-parties, afin de respecter les traditions juridiques dont nous sommes gardiens aussi. Donc, en quatre points essentiels, nous allons pouvoir aborder la richesse et la liberté d'abord, et dans un second temps, Arnaud abordera les limites et les stratégies du PLU patrimonial. Alors, dans un premier temps, la richesse et la liberté offertes par le PLU. S'il est vrai que le PLU est riche en outils possibles pour mobiliser la protection du patrimoine, il offre une certaine latitude ou liberté pour certaines collectivités territoriales. Donc, s'agissant de la richesse du PLU, qu'on peut considérer comme un véritable boîte à outils à disposition des auteurs du PLU. Alors, le PLU est composé, je ne vous apprends rien, d'un rapport de présentation, d'un projet d'aménagement et de développement durable, des orientations d'aménagement et de programmation, d'un règlement et des annexes. Le législateur n'a pas manqué d'imagination en composant le PLU d'un contenu réglementaire qui peut être investi, plus ou moins pleinement, pour la protection du patrimoine. Ainsi, la dimension patrimoniale du PLU peut ressortir de tous les documents qui le composent. Loin de moi l'envie de dresser un inventaire à la Prévert, mais il est difficile de tenter une typologie des formes de protection du patrimoine, tant les situations sont différentes sur chaque territoire. Nous allons donc aborder point par point ces richesses du PLU. Donc commençons d'abord par le cœur du PLU, le règlement. Excusez-moi, il faut que je me synchronise aussi. Alors, pour le règlement, donc, les collectivités peuvent intégrer dans le règlement du PLU des prescriptions essentiellement qualitatives en exigeant, par exemple, le respect du bâti ancien, donc soit dans la transformation des constructions existantes, soit dans les constructions nouvelles, dans ses implantations, ses volumes, son architecture, afin de conserver la typicité d'une zone ou d'un secteur que l'on pourrait caractériser en lui attribuant un indice spécial, l'indice P. Le règlement du PLU énonce les règles d'urbanisme applicables à chaque zone et périmètre et les documents graphiques qui en sont le prolongement pour certaines règles patrimoniales. Les documents graphiques en sont le prolongement et pour certaines règles patrimoniales, on ne va les retrouver que dans les documents graphiques. C'est le cas notamment des règles de hauteur. Ensuite, il est possible de mobiliser l'article L151-19. Du code de l'urbanisme, ancien L123-1-7, qui permet de repérer puis de protéger des éléments. Il sera alors important de localiser ces biens sous la forme d'une liste ou de documents graphiques. L'article L151-19 dispose dans les grandes lignes que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser, délimiter les immeubles bâtis, non bâtis, espaces publics, monuments, etc. Et ensuite, on va pouvoir apporter une protection spécifique. Cet article est interprété de manière large par le juge administratif, puisqu'on a déjà pu reconnaître qu'il puisse servir de fondement à l'institution d'une servitude de conservation des volumétries existantes, donc c'était la Cour administrative d'appel de Paris en 2009. Le Conseil d'État a également rappelé sur ce fondement, dans un arrêt en date de 2015, qu'en matière de démolition d'un bâtiment remarquable, qu'en l'absence de prescription définie par le PLU, l'identification d'une construction devant être protégée par un PLU en application de cet article a pour seul effet de subordonner les travaux ayant pour objet de la démolir ou de la rendre inutilisable en tout ou partie à un permis de démolir. Elle n'impose pas à l'autorité administrative de surseoir à statuer sur une demande de permis et ne fait pas obstacle à la démolition du bâtiment. L'utilisation de l'article L151-19 va donc permettre d'identifier et de localiser des éléments ou des ensembles remarquables pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux, avec une soumission à déclaration préalable à la réalisation de travaux susceptibles de modifier l'état de ces biens. Dans un souci de rendre la règle plus contraignantes, des prescriptions peuvent être associées aux biens identifiés par le PLU. Les auteurs du PLU vont pouvoir adapter le curseur en fonction de leur volonté, afin de contraindre les volontés patrimoniales et politiques. Donc ce sera des prescriptions telles que l'interdiction de démolition du bien. La partie générale du règlement du PLU va fixer des prescriptions générales et les règlements de zone vont fixer des prescriptions plus précises. L'application de l'article L151-19 va nécessiter l'utilisation d'annexes patrimoniales, soit sous la forme de listes des éléments et ensembles répertoriés, soit sous la forme de fiches avec d'éventuelles prescriptions individualisées. Désolée, je suis passée trop vite. Donc, si les fiches d'identification du patrimoine, comme les cahiers de prescription ou de recommandation, sont annexées au règlement du PLU et qu'un renvoi précis est fait dans le règlement invitant à se reporter à ces outils, ils sont alors opposables. Cependant, ces documents peuvent n'être qu'annexés qu'au PLU à titre de conseil, et dans ce cas, ils ne sont pas opposables. Il en sera de même si ces fiches et cahiers ne sont pas annexés au PLU et qu'ils constituent un document spécifique. Ils ont alors seulement un rôle pareil de conseil et d'information. Si l'utilisation de l'article L151-19 est un indice fort de volonté de protéger le patrimoine, ce n'est pas le seul outil à disposition des collectivités. Le PADD et le rapport de présentation devront également appuyer et justifier les choix patrimoniaux retenus par les auteurs du PLU. Dans les difficultés de compréhension entre droit dur et droit souple, il existe un outil qui se situe bien entre les deux et qui est l'exemple type de cette échelle de normativité graduée. Il s'agit des OAP. Alors, créées en 2003, les OAP constituent une composante du PLU depuis la loi Grenelle 2 et visent à donner au PLU une dimension programmatique et plus opérationnelle. Elles peuvent être précises sans pour autant être prescriptives. À ce titre, le juge contrôle que les dispositions en question restent des orientations dépourvues de caractère prescriptif sous peine d'illégalité. Les OAP s'imposent aux travaux et opérations d'urbanisme dans un rapport de compatibilité à condition qu'elles soient suffisamment consistantes pour être opposables, c'est-à-dire qu'elles orientent et programment véritablement l'urbanisation et l'aménagement des zones concernées. À défaut, elles ne sont pas opposables et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Il existe des OAP dites patrimoniales qui portent sur la conservation ou la requalification d'éléments pour des motifs culturels, historiques, architecturaux ou écologiques. Ces OAP patrimoniales ont été pensées sur la même logique que l'article L151-19 et elles nécessitent évidemment d'avoir bien identifié et localisé en amont les éléments ou ensembles présentant un intérêt culturel ou historique. Les OAP ne sont utiles que lorsque les objectifs poursuivis par le PLU requièrent une traduction spatiale sous la forme d'actions ou d'opérations d'aménagement. Et certains auteurs considèrent que les OAP sont plutôt prospectives, plus qu'opérationnelles, et on pourra avoir des zones qui sont très peu réglementées. Le législateur a donc prévu une véritable boîte à outils dans le contenu réglementaire du PLU, à charge maintenant pour les collectivités de les approprier et de les varier en fonction de leurs choix politiques. La protection du patrimoine par le PLU offre également une très grande liberté aux collectivités, puisque principalement aux mains de l'État, la protection du patrimoine va pouvoir être réappropriée justement par les collectivités, puisque dans tous les cas, les politiques de protection du patrimoine inspirés par l'État, ont des répercussions sur les actions d'urbanisme directement. Et dans ce cas, en intégrant directement le patrimoine dans le PLU, les collectivités se réapproprient ces politiques, sans forcément après avoir toujours les moyens pour le faire. Donc, en se réappropriant ces politiques de protection du patrimoine, les collectivités vont également pouvoir régler le curseur sur leur volonté et leur manière de rédiger les règles. Donc la liberté offerte aux collectivités est grande, d'abord par la richesse des outils au sein du PLU pour protéger le patrimoine, ensuite parce qu'elles sont libres de désigner les éléments à protéger, puis de fixer l'intensité de ces protections, avec la seule exigence que ces choix restent cohérents dans le dossier du PLU. Je vais laisser la parole à Arnaud pour la suite de notre intervention en deux parties. Je passe. Un peu...
Alors, une liberté, bien sûr, hein, donc, sur laquelle Isa vient de s'attarder, qui est un élément essentiel de la capacité du PLU à être un outil efficace ou pas de protection des patrimoines. Donc je pense que ça va faire partie, bien sûr, à la fois du retour que fera Jackie, je présume pas de ses propos, mais après notre intervention, puis surtout des échanges qu'on va garder donc avant de faire une pause. Donc effectivement, une liberté qui déjà peut-être constitue une raison du questionnement, enfin un élément de questionnement sur la puissance du PLU. Et puis de toute façon, effectivement, par ailleurs, des limites. Hein, alors cette liberté en elle-même, quelque part, elle est une limite, mais il y a aussi, bien sûr, des limites intrinsèques à la planification urbaine qui méritent d'être soulignées, bien sûr, parce que là aussi, en comparant le PLU éventuellement patrimonial avec les outils dédiés, les plateaux de la balance ne s'équilibrent pas. Alors, j'en profite pour préciser qu'un certain nombre d'éléments qu'on est en train d'évoquer sont aussi développés, je vous le rappelle, dans le petit livret que vous avez eu hier ou aujourd'hui à l'entrée, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces éléments sont développés dans les capsules vidéo qui ont fait l'objet donc de la production écrite Éclairage pour l'action. Donc voilà, donc on n'a pas inséré dans nos diapos le renvoi à ces textes, mais n'hésitez pas à les consulter. Alors, première limite importante, c'est bien sûr la limite structurelle du PLU, qui est issu du droit de l'urbanisme, et comme ça a déjà été dit, le droit de l'urbanisme, c'est une police administrative qui cherche à satisfaire l'intérêt général par la gestion des sols et par la destination des sols, mais qui donc est en même temps donc une restriction au droit de propriété, et au nom de la protection du droit de propriété, vous le savez, le droit de l'urbanisme est quand même limité par un certain carcan et se trouve borné par des habilitations législatives qui existent ou qui n'existent pas, mais qui dressent finalement un périmètre parfois assez restreint en matière entre autres de planification urbaine. Donc pour le résumer, effectivement c'est ce que j'ai mis, les limites réglementaires du PLU, ça consiste déjà plutôt à interdire qu'à imposer. C'est tout l'enjeu, entre autres, je saute tout de suite à la ligne d'après, c'est tout l'enjeu, par exemple, de la réglementation des matériaux. Ça a été évoqué par Jackie Cruchon dans le film que nous avons projeté hier, hein, qui, avec ses mots, dit on peut se référer à une pierre locale, on peut demander une apparence conforme à cette pierre locale, mais on ne peut pas imposer au travers du PLU la pierre locale, parce qu'effectivement, on se heurte aux limites réglementaires de la planification urbaine telles qu'elles sont posées par le Code de l'urbanisme. Alors je parle sous le contrôle de Pascal Blanchet qui est devant, mais parfois des petits écarts jurisprudentiels qui permettent quand même d'aller un petit peu plus loin dans ce rapport aux matériaux, mais vous le savez, de manière générale, un PLU ne peut pas imposer un matériau donné, c'est la tendance générale de la jurisprudence. Une autre limite importante par rapport aux outils dédiés que sont, entre autres, les sites patrimoniaux remarquables, et plus spécifiquement, en tout cas jusqu'à une époque récente, les secteurs sauvegardés, c'est bien sûr aussi l'interdiction de réglementer les intérieurs. Ça a déjà été évoqué hier, quand on parlait de l'identification des patrimoines, on a bien mentionné que ce qui est repérable, ce qui est identifiable, ce sont les extérieurs, et qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité de toute manière de réglementer les intérieurs. Alors, je vous renvoie sur ces questions, au passage, non seulement à notre petite production écrite, mais aussi aux fiches du Grido, que je pense un certain nombre connaissent, donc le groupement de recherche en droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat, qui a refait son site internet il y a quelque temps et qui a été aussi un partenaire dans le programme de recherche, donc a réédité un certain nombre de fiches. Je crois que Pascal Planchet doit lui-même, quand il en aura le temps, réécrire les fiches dédiées au patrimoine. Je me tourne vers Pascal, mais bon, c'est pas encore le cas. Alors, une autre limite, voilà, il peut pas tout faire. Donc voilà, donc limite par l'interdiction de réglementer les intérieurs, limite par rapport aux prescriptions en matière de matériaux, même au travers d'un règlement précis ou même au travers de fiches patrimoine prescriptives qui seraient en rapport direct pourtant avec les matériaux prévus sur un monument. Et puis une autre limite importante, c'est l'interdiction classique qui n'est pas spécifique bien sûr à la question patrimoniale. L'interdiction de prévoir dans le règlement de PLU ce que j'ai appelé des procédures spéciales d'autorisation, ce qu'on rassemble parfois sous l'expression de règles de forme, et on en a encore discuté il y a pas très longtemps en CRPA, Pays de la Loire. On ne peut pas prévoir dans un règlement de PLU, par exemple, l'obligation de consulter pour avis simple un architecte des bâtiments de France qui se prêterait au jeu pourtant d'un conseil patrimonial. Ça peut être fait. Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit, bien sûr, mais par contre, il est interdit de l'inscrire comme un élément de procédure qui s'ajouterait au nom de la protection patrimoniale, donc dans les prescriptions du règlement. Alors, deuxième limite, qui peut-être est moins, comment dire, enfin, moins violente à ce niveau-là, parce que c'est de toute façon une obligation du PLU, mais c'est aussi un point positif, bien sûr, dans l'élaboration du PLU, c'est l'obligation de justifier et de motiver les règles qu'on est amené à imposer au travers d'un règlement de PLU. Alors, à chaque fois que je parle de règlement de PLU, comme Isa l'a évoqué, hein, ça, je fais allusion aux articles généraux, par exemple, du règlement qui peuvent s'adresser à l'ensemble des autorisations en droit des sols ou aux règlements pouvant comporter des prescriptions particulières sur une zone, par exemple, urbaine, patrimoniale, donc qui a été. Voilà, mais ça peut aussi, bien sûr, être tout simplement un ensemble de prescriptions qui sont dans l'annexe patrimoine et qui vont permettre d'imposer donc du droit dur, comme l'a dit Isa, donc aux ensembles séquentiels, aux immeubles remarquables. Voilà, donc hein, j'essaie d'évoquer derrière tout ça l'ensemble des outils juridiques de la boîte à outils que Isa a évoqué. Donc voilà, donc vous le savez, dans les documents du PLU qu'a rappelé rapidement Isa, il y a un document de justification ou d'explication des choix qui est un document à soigner parce que c'est bien sûr aussi ce document que par exemple les associations de protection du patrimoine vont regarder pour comprendre comment se sont opérées les phases qu'on a évoquées hier après-midi, c'est-à-dire les phases d'identification, peut-être de hiérarchisation et de sélection des patrimoines méritant ensuite justement d'être protégés. Hein, nos collègues hier ont bien rappelé que bien sûr tout ce qui pouvait apparaître dans un inventaire patrimonial n'avait pas vocation à être mécaniquement basculé dans les éléments protégés. Pour des raisons qui ont été évoquées hier, hein, qui tiennent entre autres, bien sûr, au projet urbain, au jeu d'acteurs, enfin, aux enjeux fonciers. Voilà, bon, hein, je ne reviens pas sur ce qui a été évoqué hier dans cette hiérarchisation et sélection des patrimoines. Donc voilà, comment on fait juridiquement pour passer hein, de cette sélection à cette protection et comment on fait donc pour laisser de côté, en toute légalité, un certain nombre de patrimoines qu'on a pourtant inventorié, ben il faut l'expliquer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était à la fois une limite, mais c'est aussi un intérêt d'un point de vue théorique et méthodologique pour la collectivité, puisqu'elle doit aussi se questionner sur sa démarche, l'expliciter. Hein, et donc, je suis toujours un petit peu gêné à Angers de rappeler ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années parce que bon voilà c'est du passé et ça a eu des effets très très positifs ensuite sur la politique de la ville d'Angers et d'Angers-Loire Métropole en matière patrimoniale mais en 2009 quand le PLU Centre a été annulé et éventuellement une intervenante présente dans la salle pourra en parler mieux que moi puisque elle a été la cheville ouvrière de ce recours contentieux quand le PLU a été annulé, il y avait plusieurs motifs bien sûr, mais donc le PLU Centre a été annulé à Angers en 2009, entre autres pour l'insuffisante prise en compte du patrimoine, mais en fait aussi c'était à la fois une annulation en partie sur le fond, mais aussi pour des éléments de forme, bien sûr, mais aussi parce que finalement, ce qui était contesté, c'était, et contestable en l'occurrence pour le coup, c'était le fait de ne pas avoir suffisamment expliqué pourquoi finalement, au niveau de la protection accordée à certains éléments, on avait retenu ceux-là et pas les autres. Hein, donc ce document de justification et d'explication des choix, voilà, il est un élément important de la cohérence du PLU d'une part, alors pas là encore une fois seulement sur les questions de patrimoine, il l'est pour l'ensemble des thématiques dont doit se saisir le PLU ou le PLUI, hein, donc bien sûr les logements, le transport, les mobilités, l'énergie, tout ce qu'on veut, la protection du patrimoine naturel, donc c'est bien sûr pas que sur les questions patrimoniales, mais il mérite vraiment donc un argumentaire précis, une explication méthodologique, hein, et là pour le coup, si je reprends l'exemple d'Angers, lors de l'adoption du PLUI d'Angers-Loire Métropole en début d'année 2017, si je ne me trompe pas au niveau des dates, bon, Angers-Loire Métropole a fourni, à la fois dans les documents d'origine du PLUI et dans un document complémentaire lors de l'enquête publique, toute une explication. Donc vous en avez d'ailleurs un petit. Le but, ce n'est pas de lire, mais c'est ce qui apparaît dans le visuel en bas. Donc voilà, donc c'est une limite quand même par rapport bah, à cette rigueur finalement méthodologique et qui bien sûr n'est pas incompatible avec tous les enjeux du projet urbain. Alors troisième limite avant de passer au quatrième volet, j'ai pas regardé l'heure mais j'ai missionné mes collègues pour qu'ils me rappellent la montre. Donc bien sûr, c'est la fameuse réversibilité du PLU. C'est vrai que quand on est sur un secteur sauvegardé, on le sait, on est sur un outil puissant, le plus puissant, puisque en plus il remplace carrément le document d'urbanisme. Enfin, c'est-à-dire que quand on a un plan de sauvegarde, une mise en valeur, vous le savez, il remplace le document d'urbanisme. Voilà, et on a quelque chose de. Vous êtes plusieurs dans la salle à fabriquer des PSMV, donc c'est quelque chose qu'on change pas tous les 4 matins. Alors que bien sûr, le PLU a l'obligation, on va dire législative et réglementaire, d'une évolution périodique, puisque de toute façon il doit être révisé. Et puis il doit être révisé, bien sûr, ça, c'est l'échéance, c'est le contrôle des 20 000 km, hein, on va dire, mais il y a aussi bien sûr les besoins de faire évoluer le document pour l'adapter au projet urbain, pour l'adapter, ce sera peut-être le cas dans un certain nombre de territoires l'année prochaine, à de nouvelles équipes municipales qui auront forcément besoin de mettre leur empreinte sur la planification urbaine. Alors voilà, ça c'est un argument récurrent, hein, pour critiquer la pertinence du PLU en matière de protection des patrimoines. On est sûr de rien, on est sûr du sable, tout peut évoluer. Alors, je rentre pas dans tous les détails, mais vous avez un texte donc de Pascal, hein, sur cette question de la réversibilité dans le petit livret qu'on vous a remis. Effectivement, quand on affaiblit une protection, il est rappelé dans ce texte-là que quand on affaiblit une protection édictée par le PLU sur les sites et paysages, je crois que c'est à peu près ça la formule, on ne parle pas directement de patrimoine bâti, bien sûr, on est obligé de passer par une révision, donc ce qui est déjà une procédure plus lourde que de passer par une simple modification. Mais évidemment, pour autant, ça n'interdit pas de, par exemple, d'enlever d'une annexe patrimoine un certain nombre d'éléments à l'occasion d'une modification. Quand on est sur des listes des annexes patrimoine qui comportent des centaines, quand c'est pas des milliers d'éléments patrimoniaux, on se doute bien que, bien sûr, on va pas faire une révision à chaque fois qu'on enlève, pour des raisons qui peuvent être tout à fait justifiées, parfois 1, 2, 5 éléments. Alors voilà, est-ce que c'est une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain en disant qu'au nom de cette évolutivité, cette réversibilité de la planification, il faut pas miser, il faut pas parier sur l'outil? Bon, bien sûr, j'aurais tendance à dire que non. Je dis au passage qu'au début, on nous a un peu suspecté d'être des VRP du PLU patrimonial. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'insiste lourdement sur les limites structurelles, de la planification urbaine en matière de patrimoine. Mais comme je veux l'évoquer après, il faut aussi voir de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce que le PLU a vocation à remplacer un outil beaucoup plus fort, ou est-ce que dans une stratégie patrimoniale plus globale, il est au contraire une première étape, par exemple, pour aller vers un outil plus fort? Donc le fait qu'il y ait une réversibilité, une évolutivité du document, c'est bien sûr un élément un petit peu gênant, mais ça se surveille. Alors j'ai dit que ça se surveille, c'est vrai que pour le coup, par exemple pour les associations de protection de l'environnement, pouvoir à chaque révision simplifiée, modification, aller reprendre les éléments qui sont modifiés, voilà, je pense qu'il y aura des témoignages dans la salle, c'est aussi compliqué, c'est lourd, hein, bien sûr les bénévoles par exemple dans les associations n'ont pas toujours la disponibilité pour pouvoir éplucher non seulement le PLU quand il est modifié, mais bien sûr ça va de soi, déposer dans telle enquête publique, etc. Donc voilà, donc c'est pas évident d'avoir cette vigilance citoyenne ou associative, mais enfin n'empêche qu'elle fonctionne aussi. Alors après, effectivement, on a plusieurs fois fait mention ici, on l'a plutôt en remontant en généralité, de ce principe d'effet cliquet. Donc on peut dire qu'en droit de l'urbanisme, bien sûr, il n'existe pas. Hein, le principe de non-régression qui a été consacré en droit de l'environnement et qu'on s'est permis d'inscrire dans le film qu'on vous a projeté, indépendance des législations, bien sûr, du coup, il n'est pas transposable en l'état au droit de l'urbanisme, mais il est quand même une source d'inspiration dans l'argumentaire qu'on peut aussi développer pour négocier et discuter avec les acteurs, et entre autres avec la collectivité, en mettant en avant qu'effectivement, la logique, c'est quand même d'être dans une non-régression, dans un système d'effet cliquet, et pas dans une régression. Alors, comme toujours, c'est une affaire aussi de proportion. Hein, là aussi, quand en 2009, la ville d'Angers, enfin Angers-Loire Métropole, a déclassé environ 40% d'espaces boisés classés, 42, 43, c'est ça, hein, Florence, voilà. Bon, vous voyez bien qu'il ne s'agissait pas de déclasser 2 ou 3% d'espaces boisés classés. Donc hein, voilà une protection qui régresse, je dirais violemment. avec des justifications quand même pour une part discutable, enfin à l'époque, hein, voilà. Donc là, on peut effectivement se dire qu'il y a quand même eu quelque part une espèce d'effet cliquet. Ça n'existait pas, on n'en parlait pas en tant que tel à l'époque, mais voilà. Alors, pour terminer, enfin m'avancer dans cette intervention sur le dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'ailleurs ce que Fabrice a évoqué à propos de Reims. Tout dépend, cette écriture juridique réglementaire du PLU, elle est aussi intimement liée à ce que j'ai évoqué en introduction au colloque hier, la théorie des climats, c'est-à-dire où en est la collectivité qui tout d'un coup se dit qu'elle va intégrer du patrimoine pour X raisons dans son document d'urbanisme, à quelle étape dans cette démarche d'action patrimoniale elle en est, et entre autres, donc je ne veux pas reprendre ces éléments là que vous pouvez revisionner dans le film, je vous rappelle qu'on a essayé de faire une typologie de la valeur du PLU, hein, à chaque fois vous ajoutez le i, mais on a essayé de faire une typologie par rapport à l'articulation ou pas avec des outils dédiés. Classiquement, par exemple, mes collègues hier parlaient de Bordeaux, mais il y a bien sûr d'autres villes qui ont utilisé le PLU pour faire une sorte de zone tampon autour du secteur sauvegardé. Zone tampon au sens où, bien sûr, on peut aussi passer à des patrimoines différents, mais l'idée étant de dire d'atténuer l'effet brutal d'une frontière qui s'arrête forcément à la parcelle A403 et tout d'un coup de l'autre côté de la rue, alors que c'est à peu près la même continuité de bâti, tout d'un coup effectivement le voisin il est libre de faire ce qu'il veut. Donc évidemment c'est aussi ça qui va faire qu'on va jouer sur l'écriture réglementaire pour prolonger un petit peu un site patrimonial remarquable, mais bien sûr en l'adaptant au type de bâti. Alors le PLU, ça c'était plutôt, d'après ce que j'ai compris de tes propos Fabrice, le cas de Reims, le PLU permet finalement d'anticiper en partie, il y a plein d'autres territoires dans ce cas-là, la perspective et peut-être l'arrivée imminente parfois d'un document, d'une protection dédiée, évidemment classiquement un site patrimonial remarquable. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs en partie aussi dans le PLUI d'Angers-Loire Métropole, mais donc sur Reims, d'après ce que j'ai entendu, c'est aussi ce qui s'est fait. Alors c'est aussi parfois une extension de périmètre qu'on va anticiper. Et puis je reviens pas là-dessus, mais à chaque fois ça joue quand même le contenu et le choix dans la boîte à outils, des outils qu'on peut mobiliser dans le cadre de cette écriture réglementaire. Donc le dernier élément, c'est le PLU décodeur. On est sur un périmètre qui ne fait pas l'objet d'une réglementation patrimoniale, ni PSMV, ni PVAP. On est en gros dans des périmètres monuments historiques ou dans des sites classés. Et bien que ce soit effectivement deux législations distinctes, on essaye de donner de la lisibilité patrimoniale à l'intervention de l'architecte des bâtiments de France ou parfois de l'inspecteur des sites en utilisant finalement un petit peu l'écriture réglementaire pour faire de la médiation aussi. Alors c'est l'écriture réglementaire, on est d'accord, s'il y a des prescriptions, ce sont des prescriptions et ce sont pas sur ces prescriptions que l'ABF lui-même va s'appuyer pour prendre son autorisation de travaux dans un périmètre monument historique. Mais il y a des collectivités qui ont mobilisé en allant souvent donc un peu moins loin dans les prescriptions le règlement du PLU, le volet réglementaire pour pouvoir acculturer, c'est des choses dont on a aussi parlé hier dans les débats, pour pouvoir aussi acculturer par le droit, et y compris par le droit dur, les populations concernées. Alors, je crois que c'est l'avant-dernière diapo, oui, je vérifie, je ne sais pas où j'en suis, mais vous me dites, bon, ok. Voilà, alors, cette écriture réglementaire, Mathieu Gigot l'a aussi un petit peu évoqué hier, donc en s'arrêtant pour qu'il me reste des choses à dire sur le sujet. C'est pas simplement par rapport aux outils de protection spécifiques au patrimoine, c'est aussi par rapport à des réglementations sectorielles qui, à la base, n'ont rien à voir avec le patrimoine, mais qui peuvent être des outils efficace en matière finalement de protection des patrimoines. Donc le classique, vous le voyez à l'écran, j'ai repris des cartes d'Angers-Loire Métropole, enfin en l'occurrence même d'Angers tout simplement. Vous voyez tout en haut sur le visuel de gauche en fait une grosse zone rouge, donc inondable à 99,9%, enfin quelque chose comme ça, puisque c'est ce qu'on appelle l'île Saint-Aubin, donc il y a la confluence entre la Sarthe et la Mayenne qui finit enfin presque le grand secteur et la zone Ramsar, donc des bases vallées Angevine. Donc cette île Saint-Aubin, donc bien sûr, elle est inconstructible, on va dire à 100%. Enfin, elle est inconstructible à 100%. D'ailleurs, il y a un bâti qui est hors d'eau l'hiver. C'est une ferme ancienne. Mais sinon, bien sûr, elle est 100% inconstructible. Voilà. Le risque inondation, le fait d'être en zone rouge du PPR, rend de toute façon toute modification, toute altération du patrimoine. Alors évidemment, sur l'île Saint-Aubin, on est plutôt sur du patrimoine naturel, écologique. On est par ailleurs en zone Natura 2000. Mais quel besoin, je dis pas que parfois ça se justifie pas, mais là, par exemple, quel besoin il y a, bien sûr, d'aller faire du PLU patrimonial sur une zone comme ça. Alors, je dis ça, en fait, c'est pas si net, parce que finalement, là, par exemple, le site patrimonial remarquable, vous savez, Angers est désormais doté d'un nouveau site patrimonial remarquable. Ça a été le premier à passer dans le cadre de la loi LCAP devant la CNPA, et à avoir été approuvé par arrêté ministériel. Et finalement, ça se voit peut-être pas sur la deuxième carte, mais finalement, le site patrimonial remarquable recouvre pourtant l'île Saint-Aubin. Voilà, je ne sais pas si Céline Viau est présente. Voilà, elle pourra peut-être en dire un mot. Mais voilà, donc on peut aussi quand même... donc là, je ne parle plus du PLU, je parle bien d'un site patrimonial remarquable où on est venu quand même chevaucher une zone qui était de toute façon totalement protégée du point de vue de ses paysages par au moins l'inconstructibilité. Donc voilà, je reviens à cette idée que l'écriture réglementaire du PLU, elle prend bien sûr en compte des outils qui ne sont pas forcément ceux du patrimoine, la gestion des risques naturels ou alors la gestion des patrimoines naturels parfois. Alors, ce sont bien sûr des servitudes d'utilité publique. Donc, c'est aussi, bien sûr, malgré tout, un moment au PLU d'intégrer ces servitudes d'utilité publique. Bon, déjà, par principe, de les annexer, même si c'est pas toujours, d'ailleurs, si simple. Et puis, bien sûr, en théorie, d'en tirer les conséquences, malgré tout, aussi dans l'écriture réglementaire. Hein, et entre autres, par exemple, dans les zonages. À partir du moment où vous annexez un PPR qui vous met en zone rouge toute une partie de votre territoire, bon, la logique, c'est normalement que, bien sûr, toute cette zone soit inconstructible. Voilà. Mais bon, on voit aussi que les choses se négocient. Je reviens à la question des jeux d'acteurs que Julie a particulièrement bien évoqué hier. Hein, on sait aussi, je prends par exemple le cas d'une petite commune pas loin d'ici qui s'appelle Béhuard, qui doit faire une petite centaine d'habitants à l'année, qui est donc une île entre deux bras de Loire, qui est donc 100% inondable également. Et en même temps, le bâti, qui est un bâti magnifique, donc dans un site patrimonial remarquable, ce qu'on appelle le site patrimonial ligérien, le bâti doit aussi un peu évoluer, puisque les gens y vivent, et qu'effectivement, il faut aussi parfois laisser quelques toutes petites marges de manœuvre pour que, par exemple, les gens aient la possibilité de faire de petites extensions. Si voilà, donc... C'est pas parce qu'on est dans une zone inondable, en zone rouge, par exemple, que le bâti est forcément figé. Et s'il est pas figé, du coup, pour le coup, le PLU peut quand même avoir un rôle aussi à ce niveau-là. Voilà, donc je pense qu'il va être temps de conclure. Voilà, merci. Donc, je reprends un petit peu ce que j'avais évoqué hier en introduction, trop brièvement évoqué avec Isa maintenant, c'est-à-dire que ce qu'on a constaté au travers des 35 PLU et des territoires qu'on a étudiés, c'est forcément, ça va pas vous surprendre, une extrême variété juridique, une mosaïque juridique d'intensité réglementaire. Je parlais de gradient de patrimonialité hier à l'échelle du PLU dans son ensemble, mais évidemment ça se mesure en particulier dans le cadre de l'écriture réglementaire. C'est pas que simplement, par exemple, dans l'identification des patrimoines. Alors, du coup, à partir du moment où on a cette mosaïque, une question que vous pourriez vous poser, nous poser, c'est, mais vous qui avez bossé dessus pendant 3 ans, est-ce que finalement, à un moment, vous considérez qu'il y a des fondamentaux, des curseurs, il y avait une table de mixage là en visuel au début, est-ce qu'il y a des réglages sur cette table de mixage qu'on ne doit pas abaisser si on veut vraiment dire qu'on fait du patrimoine dans son PLU? Donc, on a en partie répondu à ça au travers de cette question de la liberté, de la libre administration des collectivités locales. Alors, moi, j'avais un peu évoqué un moment avec mes collègues, mais à la fois, on n'a pas eu le temps de travailler là-dessus, puis il y en a qui étaient plutôt réticents de toute façon à cette idée. Après tout, pourquoi pas bosser sur une espèce de label PLU patrimonial, comme on a un label pour les écoquartiers ou d'autres, qui serait bien sûr attaché à un cahier des charges. Donc, on voit pas le code de l'urbanisme évoluer, évidemment, pour plein de raisons, vers un statut réglementaire du PLU patrimonial, parce que tout simplement déjà il y a plein d'acteurs qui disent le PLU n'a pas à être plus patrimonial que mobilité, que énergie, que logement et tout. Donc voilà, donc ça pourrait être une manière de certifier un petit peu, en travaillant sur une grille d'indicateurs de ce type, de certifier un petit peu la puissance juridique d'un PLU, mais ce serait quand même compliqué à mettre en œuvre, entre autres parce qu'il faudrait aussi pouvoir assurer un suivi de cette haute intensité. Voilà. Et puis dernier point, c'est, j'ai repris le visuel, la couverture de ce petit bouquin que vous connaissez peut-être, le droit, j'en fais pas la promo, mais cela étant, il est à vendre à la librairie. C'est pas moi qui l'ai écrit, je suis tranquille. Le droit nuit gravement à l'urbanisme, on en reparlera cet après-midi lors de la table ronde. Mais vous le savez aussi, bien sûr, depuis 2016, il est possible de faire des règlements de PLU, PLUi allégés, avec des règles qualitatives, par objectif, plutôt qu'un droit de l'urbanisme à la calculatrice, comme on le dit souvent. Donc, dans quelle mesure, du coup, ça va impacter cette manière de réglementer les patrimoines au travers des PLU et des PLUi? Donc, je sais qu'on en reparlera, puisque, entre autres, j'ai échangé avec Grégoire Boselier sur ce sujet, donc je sais qu'il y a des choses passionnantes à vous dire. Mais voilà. Donc, c'est la conclusion. Merci.
Merci, merci, merci aux intervenants. Merci de m'avoir invité. Si je suis ici, je suppose pas. C'est parce que effectivement, je vais essayer de pas trop mal représenter l'association de Cité Citoyenne Grande de France. Mais c'est aussi sans doute parce que je suis pas très partie prenante du PLU patrimonial. Vous l'avez bien entendu à diverses reprises. Je voudrais quand même commencer juste. Ça a été évoqué hier, mais je voudrais quand même y revenir par un hommage à Alexandre Mélissinos pour plusieurs raisons. La première, c'est un ami, alors c'est pas suffisant, mais c'est une étude. La seconde, c'est que, effectivement, il y a plus de 50 ans, il initiait avec Saint-Omer le premier plan, le premier poste fin. Dominique Masson en a parlé, mais il n'a pas fait que ça, il en a fait pas mal, jusqu'à Montmartre, à l'époque où Alain Juppé était ministre, était maire, ça ne nous rajeunit pas, mais en tout cas, il a beaucoup travaillé dessus. C'est peut-être aussi une réflexion sur la méthode qui pouvait être initiée à l'époque. La deuxième, c'est qu'il est décédé il y a un an et demi et qu'on a rendu hommage lors du congrès de l'association à Figeac, à Alexandre, et ses proches et sa famille ont dit finalement qu'il soit décédé, c'est pas si mal parce que dans le contexte actuel, il ne verra pas la déliquescence de la protection. Et je crois que c'est une réflexion importante parce que le premier jour, moi, j'ai failli tomber dans le panneau. Je me suis dit, c'est pas si mal que ça, finalement, le PLU, je dois avoir tort, quoi. Mais bon, vos interventions me rassurent un peu plus aujourd'hui. Et puis, de toute façon, c'est difficile de me faire changer d'avis, parce que je suis un peu mulet, mais c'est vrai. Mais je veux dire que cette déliquescence, on l'aperçoit. Alors, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle remonte à loin. Je me souviens d'une intervention de Benoît Apparu quand il était ministre. Disant très clairement, on va faire une annonce, vous allez voir, on va tout simplifier, etc. La loi CAP, avec toute la diplomatie et la délicatesse qui me caractérise, je t'ai fait des réflexions hier là-dessus, justement. Mais si l'heure de gloire du PLU par rapport à la loi CAP, c'est pour autant que Judas a eu son heure de gloire. Dire que l'alternative à la protection du patrimoine proposée par la réflexion sur les cités historiques, ce qui est devenu la loi CAP aujourd'hui, c'était de supprimer les AVAP, supprimer les ZPPAUP et de remplacer par un PLU sans en toucher le contenu juridique, sans l'accompagnement de l'État, sans les financements de l'État, sans la présence de l'ABF également, etc. Bref, si on s'est battu les uns et les autres là-dessus, c'est bien pour ça. Et encore aujourd'hui, alors que la loi, normalement, a dit des choses assez claires et que les textes relatifs à la création des sites patrimoniaux remarquables nous semblent assez clairs et reprennent assez largement les dispositions des AVAP et des SBPAUP, aujourd'hui encore, et quand on peut discuter avec des ABF off, quand on a le témoignage de CRPA Il y a aussi encore une volonté d'abandonner ces protections au profit du PLU. Alors, pourquoi ? Est-ce que le PLU est effectivement... je ne sais pas si vous avez connu tout le Canada Dry, mais enfin, en tout cas, à l'époque, on disait hein, ça ressemble à l'alcool, c'est la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas l'alcool. Quoi. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur des PLU, des protections Canada Dry ? C'est une première réflexion. Je vous livre...
J'en profite pour demander à un étudiant ou une étudiante de voilà pour les questions après.
Peut-être dans le prolongement de cette question, malgré tout, est-ce que le PLU patrimonial ne permet pas quand même de décloisonner d'un côté le patrimoine et de l'autre côté l'urbanisme et de davantage les réunir? Par exemple, en Espagne, il y a une tradition plus importante d'intégration du patrimoine dans l'urbanisme. Comment ? Oui, non mais je sais, mais je pose une question pour savoir si finalement, même si effectivement on voit que à travers les exemples montrés que là c'est pas une protection en fait, c'est une protection très relative qui est dans le PLU pour le patrimoine, ça permet peut-être quand même d'avoir une intégration qu'on n'avait pas avant.
Moi, je posais la question par rapport à une tendance à la déréglementation, à l'allègement. La déréglementation, c'est un peu fort, mais en tout cas, à alléger les prescriptions. C'était plutôt cette tendance-là. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part entre cette tendance lourde hein, qui relève du ministère compétent pour les PLU ou du ministère de la Culture hein, je crois que là, pour les coups, l'union est faite de ce point de vue-là. Et comment peut-on concilier, en quelque sorte, où va-t-on, plus exactement, entre cette tendance forte à l'allègement, voire à l'affaiblissement, comme d'ailleurs les richesses que vous avez montrées, de ces variétés de PLU, est-ce que c'est une richesse ou une faiblesse hein, je veux dire.
Moi, je pense que je vais essayer de répondre rapidement pour qu'on puisse aussi discuter avec la salle, comme on a pris un peu de retard au départ. Moi, je crois que c'est vraiment rattaché à la question aussi de la stratégie de la collectivité, c'est-à-dire où est-ce qu'elle en est. C'est-à-dire, si demain, pour faire ça à la SERP, là, tout de suite, pour aller vite, si demain, évidemment, ce que veut le ministère, de la culture. si demain il faut remplacer des AVAP par des PLU patrimoniaux, c'est juste inadmissible pour plein de raisons. En termes de qualité des études, en termes de niveau de protection, malgré tout en termes de pérennité des protections aussi, mais déjà tout simplement par rapport à la qualité des études patrimoniales, au temps qu'il faut, ça a été évoqué hier, au coût. Enfin voilà, c'est toutes ces choses là qu'on a évoquées hier. Bon, par contre, ce qu'on a constaté quand même, je pense, là aussi, je parle comme toujours avec mes collègues, hein, enfin, ils peuvent abonder ou au contraire me contredire un peu, mais on a aussi vu finalement des tas de PLU dont on parle pas, qu'on a ouvert pour ponctuellement plein de raisons, et où en fait aujourd'hui il y a du patrimoine et là où il y en avait pas il y a 10 ans, 15 ans. Donc moi je me dis que quand même faire monter cette question patrimoniale dans des tas de PLU, enfin ce sont des centaines, des milliers aujourd'hui, enfin je parle sous votre contrôle aussi, mais de PLU qui parlent patrimoine alors qu'ils n'en parlaient pas il y a 10 ou 15 ans. Alors par contre je pense que dans un certain nombre de territoires, ça ne peut être qu'une étape. Et que l'idée, c'est ce que je dis, c'est plutôt le PLU précurseur qui va permettre, par exemple, de travailler avec les élus, avec la population, sur un projet patrimonial, je dirais même un projet territorial qui intègre le patrimoine. J'ai parmi le visuel d'un bouquin qui avait été édité par la FNO il y a déjà quelques années. Je crois que c'est Corinne Langlois qui avait été la cheville ouvrière. Hein, ça s'appelle le patrimoine territorial en projet. Je crois que c'est comme ça. Voilà, et je pense que l'intérêt, c'est aussi d'aller vers ça. En touchant du doigt aussi, par exemple, les retombées économiques de ces enjeux patrimoniaux dans un pays qui est quand même un pays aussi touristique. Il n'y a pas que ça. C'est aussi le cadre de vie pour les habitants de tous les jours. Enfin, tout ça, c'est pour dire que quand on est dans une démarche qui va, à mon avis, vers un horizon un petit peu plus ambitieux, je trouve que le PLU patrimonial a un intérêt. Par contre, si le PLU patrimonial, demain, doit être le réceptacle, par exemple, on en reparlera cet après-midi, de sites patrimoniaux remarquables qui ne seraient pas jugés dignes de ce nom par le ministère ou par la CNPA, ou d'extensions, puisque vous le savez, c'est un des enjeux aujourd'hui, des extensions d'AVAP actuelles, par exemple, dans le cadre de la nouvelle loi, et qui ne sont pas acceptées par le ministère et pour lesquelles le ministère dit... Eh bien, vous mettrez tout dans le PLU. Là, on est sur une régression et voilà, le PLU n'est pas suffisant.
Moi, je crois assez à la montée du désir de protection, de l'intérêt de la protection. La difficulté, me semble-t-il, c'est que on est dans des situations d'inégalité de territoire très fort et que c'est un enjeu important. Moi, je vous en parlais tout à l'heure, je pense que c'est la question de l'interco, mais c'est un enjeu fondamental aussi par rapport à l'interco. C'est un enjeu de mise en pratique aussi, parce que lorsqu'on utilise le droit des sols, comment on fait pour gérer une utilisation du droit des sols à une distance, etc. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que dans la mesure où il n'y a pas, entre guillemets, de cadre, tu as évoqué les cahiers des charges, il n'y a pas de... Oui, une espèce de cahier des charges ou en tout cas de consensus sur un contenu, on a des inventaires, des connaissances qui sont partielles, et donc du coup, qu'est-ce qu'on protège ? Ou on passe à côté de quoi, etc. Donc il y a quand même là de vraies difficultés de traduction d'un désir social, politique important, mais d'une pratique, d'une évolution. Quoi. Je crois que ça reste quand même, de mon point de vue, une certaine faiblesse, mais bon, on ne va pas revenir en permanence là-dessus, on va laisser la place un petit peu à la salle, qui a des questions sans aucun doute plus pertinentes à poser.